Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, nous célébrons Saint-Lazare. Ça peut vous sembler curieux, mais vous savez que c'est le meilleur ami, ou du moins... Oui, le meilleur ami, probablement, de Jésus. C'était le frère de Marthe et de Marie, chez lesquels il allait résider à Béthanie, quand il était à Jérusalem. Béthanie, c'est tout près de Jérusalem. Et Saint-Lazare a été ressuscité par Jésus, vraiment ressuscité. Ça faisait 4 jours qu'il était au tombeau. C'est une véritable résurrection. Une résurrection qui mène à une autre mort. Il est mort 2 fois, ce pauvre Lazare. C'est pas comme la résurrection du Christ ou la résurrection qui nous attend, qui sera une résurrection pour toujours, évidemment. Et Saint Lazare, c'est vraiment un très grand personnage de l'Évangile. Mais il y a un autre Lazare, qui est célébré le 1er septembre. C'est celui que l'on retrouve dans la parabole du mauvais riche. C'est dans Saint-Luc, au chapitre 16. Jésus parle du mauvais riche, parle du mendiant, Lazare, qui est couvert d'ulcère. Couvert d'ulcère, ça rappelle les pauvres gens qui souffrent du sida et de tant d'autres maladies à travers le monde. Et qui est couché à la porte de l'homme riche, il recevait absolument rien. Tandis que le riche, à sa mort, est enseveli dans l'enfer, rapporte Jésus, bien le mendiant est porté par des anges, dans le sein d'Abraham. On pourrait dire, nous, porté contre le cœur de Dieu. C'est du langage figuré, évidemment. Les documents au sujet de ce Lazare, il n'y en a pas. Il n'y a pas de documents de sa vie, évidemment. C'est un personnage créé de toutes pièces, inventé pour la parabole, pour l'histoire, pour le conte. Mais Benoît XIV et avec lui quelques écrivains ont pensé que les maisons désignées sous le nom de Ladrerie, des hôpitaux où l'on recueillait des lépreux, avaient reçu ce nom à cause de ce mendiant nommé Lazare qu'avait créé de toutes pièces Jésus. Et puis le sentiment le plus commun, c'est que le patron de ces maisons était Saint Lazare de Béthanie, celui dont c'est la fête aujourd'hui. Bah, on peut pas discuter de là-dessus. De toute façon, on a donné pour raison que le Saint Lazare de Béthanie, dont je vais vous parler, aurait employé ses biens principalement à faire soigner les lépreux. Et puis que les malades qui étaient affligés de la lèpre en France allaient à Autun solliciter leur guérison. Et c'est là qu'on prétend que les restes de Lazare, le frère de Marthe et de Marie, auraient été finalement enterrés. Son tombeau serait dans cette belle basilique romane d'Autun. Et c'est le 1er septembre que l'on célèbre en Bourgogne l'anniversaire du martyre de ce Saint Lazare, que l'on confond souvent avec l'autre de toute façon. D'après l'Évangile, Saint Lazare et les 2 sœurs, Marthe et Marie, l'autre Lazare, appartenaient à une famille juive d'une condition assez élevée. Tous 3 habitaient Béthanie, comme je vous ai dit, une petite bourgade qui est située sur le versant oriental du Mont des Oliviers, entre Jérusalem et Jéricho. Puis Jésus, qui les honorait son amitié, c'est quelqu'un, hein, c'est toute une famille d'avoir comme ami Jésus, c'est merveilleux. Si nous avions tous Jésus comme ami, hein, dans nos familles, ça changerait bien des choses. Alors il s'arrêtait volontiers là pour se reposer de ses longues courses avec ses disciples. C'était au fond sa résidence habituelle de Jésus quand il vivait à Jérusalem. Et Marthe paraît avoir été l'aînée, elle. Elle est toujours citée avant sa sœur dans l'Évangile. Puis vous savez, dans la fameuse scène racontée par Saint Luc au chapitre 10... où elle demande à Jésus de dire à Marie de se lever puis de venir l'aider à la cuisine. C'est elle fait à Jésus les honneurs de la maison pour remplir les devoirs de l'hospitalité. C'est Marthe qui vraiment s'occupe de le bien recevoir. Marie, elle, est d'une nature... pas paresseuse, non, mais disons qu'elle est moins agissante, soyons polis. Et elle paraît dans cette circonstance comme une contemplative, et c'est pour ça qu'elle est un peu le symbole de toutes nos moniales. Elle est assise aux pieds du Christ, et elle l'écoute. On s'arrête ici à l'opinion traditionnelle qui identifie la sœur de Lazare, Marie, avec la pécheresse Marie-Madeleine dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. C'est aussi dans Saint-Luc au chapitre 7. On l'identifie aussi avec Marie-Madeleine, la possédée délivrée par Jésus, dans Saint-Luc encore au chapitre 8. Ça fait beaucoup de Marie, trois Maries. C'est cette Marie-Madeleine qui a accompagné ensuite le Sauveur Jésus dans ses prédications et jusque sur le calvaire. Alors le surnom de Madeleine lui a été donné d'ailleurs, parce qu'elle était originaire du bourg de Magdala en Galilée. Bon. Au moment où le message lui apportait la nouvelle de la maladie de Lazare, arrivons au point de la résurrection, là. Quand Jésus apprend que Lazare, son ami, est malade, il se trouve à ce moment-là dans le péré. Mais même si Jésus aime beaucoup les membres de cette famille, c'est vraiment la famille peut-être qu'il préfère parmi toutes, il ne s'en émeut pas trop outre mesure parce qu'il y a des choses à faire, et puis Dieu le Père va se servir de cette maladie de Lazare pour manifester la gloire de son Fils. C'est une espèce de sanction qui va arriver comme un sceau pour confirmer la prédication de Jésus, ce qu'il annonce, la grande nouvelle, la bonne nouvelle comme on dit souvent. Après un délai de 2 jours, dont pendant lesquels ont eu lieu la mort puis la sépulture de Lazare, Jésus se décide à rentrer en Judée pour tirer son ami du sommeil de la mort. Du sommeil de la mort. Puis fournir ainsi à tous ses disciples un nouveau motif de croire en sa puissance divine. Alors il rencontre Marthe d'abord, puis Marie. Ça n'a pas d'autre but que de les affermir dans cette même disposition. Jésus est donc en même temps témoin des larmes de Marie, puis aussi de quelques Juifs qui l'accompagnent. Et Jésus, à ce moment-là, en ressent dans son humanité, c'est un homme, une profonde émotion. C'est un des beaux moments de l'Évangile, ça. Il se fait conduire devant le tombeau de Lazare, et il verse des larmes. Et on dit, voyez donc comme il l'aimait. C'est ce que disent les Juifs qui sont témoins de cette scène. Et quelques-uns ajoutent aussitôt, me semble qu'il aurait pu, lui qui a ouvert les yeux d'un aveugle né, il aurait pu faire que Lazare ne meure pas. Mais cependant, Jésus s'approche du tombeau. Il ordonne d'enlever la pierre qui enferme l'entrée. Et Marthe, la plus âgée, l'a dit, « Seigneur, il sent déjà mauvais, il est là depuis 4 jours. » Mais Jésus la rassure. « Est-ce que je ne vous ai pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu ?» Et après une prière intense, adressée à son Père au ciel, Jésus donne cet ordre d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et aussitôt le mort, entouré de ses bandelettes, le visage couvert d'un suaire, il obéit. Et Jésus dit à ceux qui l'entourent, « Déliez-le et laissez-le aller. » Et c'est ainsi qu'en présence de nombreux témoins, Lazare est rendu à la vie. Et l'effet de ce miracle est considérable. Beaucoup de Juifs se mettent à croire en Jésus. Mais à cette nouvelle, les chefs des prêtres, là, juifs, les pharisiens aussi, ne se possèdent plus. Là, ça les énerve. Réunis chez Caïphe, ils déclarent que Jésus de Nazareth doit mourir si l'on ne veut pas voir tout le peuple marcher à sa suite. Et la vue de Lazare assistant au festin de Béthanie 6 jours avant la Pâque ne fait qu'augmenter évidemment l'enthousiasme de la foule. Alors ici s'arrêtent les renseignements que les évangiles nous donnent sur la personne de Lazare ressuscité. Tout à l'heure, dans un peu plus d'un quart d'heure, je vous raconterai le miracle de la conversion intérieure d'un jeune homme moderne tout à fait d'aujourd'hui, qui était dans le tombeau de la drogue, de la musique rock, déchaîné, et puis du sexe, puis de tout ce que vous voudrez, et qui a été vraiment ressuscité par Jésus, comme tant d'autres aujourd'hui en plein fin du XXe siècle. D'après la légende qui entoure la vie de Lazare, on peut se référer, si on veut, pour la légende, à Jacques de Voragine. On peut trouver son livre, il est publié en pocketbook, en livre de poche de nos jours. C'est un livre très ancien. Et dans sa notice sur Sainte-Marie-Madeleine, il écrit, je vous lis tout ce qui peut vous intéresser, là. Après l'ascension du Seigneur, Saint-Pierre a confié Marie-Madeleine à Saint-Maximin, l'un des 72 disciples du Seigneur. Alors Saint-Maximin, Marie-Madeleine, Lazare, Marthe, Martier, et avec eux Saint-Sédon, l'aveugle-né guéri par Jésus, justement, ainsi que d'autres chrétiens encore, furent jetés sur un bateau et lancés à la mer sans personne pour diriger le bateau. Donc, ils sont surtout dans la Méditerranée. On espérait que de cette façon, dit Jacques de Voragine, ils seraient tous noyés à la fois, mais le bateau conduit par la grâce divine arrive heureusement dans le port de Marseille. Et là, personne ne veut recevoir les nouveaux venus, qui s'abritent sous le portique d'un temple à Marseille, dans le sud de la France. Et lorsque Marie-Madeleine voit les païens se rendre dans leur temple pour sacrifier aux idoles, elle se lève, le visage calme. Elle se met à les détourner du culte des idoles et à leur prêcher le Christ. Alors, suivent là dans le texte de Jacques de Voragine des détails sur l'apostolat de Marie-Madeleine. Les habitants de Marseille, convertis, nomment d'un consentement unanime Lazare, leur évêque, évêque de Marseille. Puis Marie-Madeleine et ses disciples se rendent à Aix, où par de nombreux miracles, ils convertissent le peuple à la foi du Christ et Saint-Maximin y est élu évêque. Et cependant, Marie-Madeleine, désireuse de contempler les choses célestes, se retire, elle, dans une grotte de la montagne, la Sainte Baume, la fameuse Sainte Baume. Plusieurs d'entre vous, j'en suis sûr, sont allés en Provence. Et on raconte que les anges lui ont préparé cette grotte. Et pendant 30 ans, elle y reste incognito. Et assisté par l'évêque Maximin, mais son âme s'envole un jour vers le Seigneur, Sainte Marie-Madeleine. Marthe, pendant ce temps, évangélise les bords du Rhône. C'est toute une légende, hein, ça? Et elle délivre la région d'un monstre auquel on donne le nom de Tarasque et qui termine ses jours dans la pénitence au lieu qui, plus tard, est nommé Tarascon. Et sa vie aurait été écrite par sa servante Martie, là, qui était partie avec elle dans le même bateau, et qui va mourir en esclavonie. Et une autre tradition assure que Lazare, après 30 ans de travaux, est arrêté par les païens, enfermé dans une prison, et comme il refuse de sacrifier aux idoles, bien subit plusieurs tortures, puis il est enfin décapité. Et vers 1147, son corps est transporté de Marseille à Autun, dont je vous ai parlé, où l'église construite en son honneur devient plus tard la cathédrale d'Autun. Et tel est en résumé ce que l'on désigne sous le nom de tradition provençale ou tradition des saints de Provence. Bon, je vous ai raconté cette histoire parce qu'elle est très connue en France, dans le sud de la France, et nous verrons tout à l'heure, après avoir écouté du chant grégorien, une messe de funérailles interprétée par les moines bénédictins de l'abbaye de Solesmes sous la direction de Joseph Gaillard, nous allons entendre au début le répond « Qui Lazarum ». Thank you. Alors voilà pour la légende qui entoure particulièrement Saint-Lazare, dont c'est la fête aujourd'hui. Avant d'aborder la question des saints de Provence, car vous savez qu'en Provence, dans le sud de la France, ce sont des saints extrêmement populaires. Il semble bien que le rôle principal de tous ces saints, bien, il est dévolu à Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine. Lazare, les autres, passent au second plan. Je vous ai parlé de Sainte-Marie-Madeleine le 22 octobre dernier, il y a 2 mois. Il paraît utile de présenter quelques explications sur ce qu'on a nommé avec une certaine emphase les traditions apostoliques qui datent des apôtres dans le sud de la France. C'est une confusion à l'aide de laquelle il est facile de donner le change, vraiment. Mais c'est amusant, ça vaut la peine de savoir au moins quand on va en Provence ou quand on lit des choses au sujet de la Provence ou quand on lit des choses au sujet de la Sainte-Baume, les Saintes-Maries de la Mer, Marseille, l'histoire de l'Église dans ce temps-là. C'est bon de savoir ces questions-là, ça aide. Faut pas être ignorant de toutes ces questions-là, il me semble. Si la journée est toute trouvée, on peut y consacrer une petite demi-heure, pourquoi pas, hein? Et ces traditions sont d'ordre purement local, hein. Il y a la tradition provençale, la tradition bourguignonne, etc. Puis ces traditions, dont on peut en bien des cas signaler que c'est arrivé assez tardivement, sont pas toujours d'accord. Elles n'ont rien de commun avec ce que nous nommons la grande tradition, dont le premier caractère, évidemment, c'est d'être universel, quant à l'espace puis quant au temps. Et voici comment les apprécie un auteur très, très réputé. Il est établi aujourd'hui, dit-il, que toutes les traditions relatives à des origines apostoliques, donc du temps des apôtres, de telle ou telle église de France, relèvent uniquement de la légende. Il semble même que l'on puisse retracer les étapes de leur genèse. Ça suffit, je vous lis pas tout le reste, il y en a. Il y a des livres là-dessus. Il me semble que cette phrase suffit. Et parmi les défenseurs, donc, des traditions locales, quelques-uns semblent croire volontiers qu'elles jouissaient d'une quasi immémoriale possession d'État, comme ils disent. Quand une critique comme celle de Mgr Duchesne, grand historien, est venue la troubler, Mgr Duchesne. Il faut lire les ouvrages de Mgr Duchesne, c'est passionnant. Quel homme qui a su décortiquer toutes ces choses-là il y a déjà presque une centaine d'années. Mais déjà, au XVIIe siècle, ces légendes-là ou ces traditions-là avaient subi de la part de nombreux érudits un assaut tel que plusieurs avaient succombé. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, il y a 300 ans qu'on essaie de remettre les choses en place. De toute façon, le culte rendu à Sainte-Marie-Madeleine et à Saint-Lazare en Provence est basé en grande partie sur la possession de leurs reliques en ce pays, croit-on. Sainte-Marie-Madeleine, ses reliques sont à Saint-Maximin, et Saint-Lazare à Marseille et à Autun. Or, il se trouve que l'Orient, oui, chez nos frères orthodoxes, on a des titres sérieux et bien plus anciens pour revendiquer la possession du tombeau de ces deux saints. Bon, restons-en là. En ce qui concerne les reliques de Saint-Lazare, c'est à Gérard de Roussillon que la légende attribue le transfert à Autun. Ce seigneur passait au XIIIe siècle pour avoir enrichi de reliques la cathédrale d'Autun. C'est une belle cathédrale à visiter. Vous savez que le Christ qu'on voit devant la cathédrale d'Autun, il avait perdu sa tête. Le Christ a perdu la tête. Non, la statue avait perdu sa tête. Au temps de la Révolution. Et puis, elle a été retrouvée vers... après la guerre, la dernière guerre, elle a été retrouvée par hasard dans une vente quelconque. Et puis, le chanoine curé de la cathédrale m'avait reçu pour me montrer tout ça et montrer qu'on pouvait la replacer. Il était heureux de remettre la tête du Christ après tant de temps sur ce Christ du tympan de la cathédrale d'Autun. C'était une grande découverte historique sur le plan de l'art. Alors, au XIIe siècle, on croyait à Autun posséder donc les reliques de Saint-Lazare. Cette croyance n'était pas très ancienne. Et la cathédrale d'Autun, bien, elle était sous le vocable autrefois de Saint-Nazaire, de Nazarius, Et puis ça a passé à Lazarus, ça se ressemble, les gens n'ont pas trop critiqué. Comme elle était trop étroite, on a commencé à l'agrandir vers 1120. Et 25 ans plus tard, on y a transféré les restes de Saint-Lazare, dont elle devait à l'avenir porter le vocable, c'est la cathédrale Saint-Lazare, aujourd'hui à Autun. Puis le récit de la translation, d'ailleurs fait par un témoin oculaire, là, c'est absolument muet sur la provenance des reliques. Puis l'affaire de l'épiscopat de Lazare n'est indiquée que par des circonstances de gants puis de crosse trouvées dans sa chasse. Alors, est-ce qu'il a vraiment été évêque ou s'il n'a pas été évêque? On peut en douter. C'est pas sûr. Mais on ne dit pas où Lazare aurait été évêque. On le dit parfois qu'il aurait été évêque à Chypre. Il y a toutes sortes de choses là-dessus. Mais dans un petit livre paru chez Mediapol il n'y a pas longtemps, on raconte que depuis l'Antiquité, la lèpre a été considérée comme une véritable malédiction. Ce livre s'appelle « Les saints et la médecine » par Luciano Sterpellone, chez Mediapol. Les saints et la médecine, hein, ça peut faire un beau cadeau pour des médecins, des gars malades, des gens qui travaillent dans les hôpitaux. Les saints et la médecine. Et on dit que les plaies ouvertes et mutilantes, qu'elle produit la lèpre sur les membres et le visage, le rendent les pauvres malades si désagréables et horribles à voir, que la société évidemment les tient écartés des centres habités. Surtout autrefois, maintenant on a beaucoup plus de compassion. Et tous les preux devraient avoir sur lui une crécelle ou une clochette. J'ai déjà vu ça en Afrique. Pour avertir de sa maladie tous ceux qu'il rencontrerait sur sa route. Et celui qui était atteint de cette maladie grave et incurable, il n'y a que quelques décennies que l'on sait la combattre, hein, grâce particulièrement à Raoul Follereau, dont je vous parlerai un jour. Il n'avait donc d'autre choix que d'attendre patiemment la mort, et cela durait pendant des années, dans un total isolement. Un peu comme nos sidéens, parfois. Et il mettait son espoir dans l'intervention de lieux saints qui s'occupaient particulièrement de cette maladie. Et puis, c'était Saint-Lazare et Saint-Gilles. Et on dit communément que les lazarets, les hôpitaux pour pestiférés, fondés pour la première fois à Venise, tirent leur nom du prénom Lazare. Et selon certains, bien, l'étymologie serait tout autre. De toute façon, quand la peste a fait son apparition là, en 1403 à Venise, c'était une ville d'accès facile à cause de la situation géographique, hein, tous les bateaux arrivaient là, puis la seigneurie de Venise a décidé de prendre aux ermites de l'ordre de Saint-Augustin l'île où, en 1249, ils avaient bâti la belle église Sainte-Marie de Nazareth, puis là, de transformer ça en hôpital pour les pestiférés. Ils envoyaient là aussi les personnes suspectes. Puis par la suite, les marchandises venues d'Orient pour les isoler aussi, de crainte qu'il y ait des maladies dans ces marchandises. Et le terme de lazaret dériverait donc d'une déformation verbale de Nazaretum, qui est le nom vulgaire que le peuple donnait à l'hospice, là, en substituant le L-O-N, hein, Lazaretum, puis Nazaretum, entre les cas on peut cependant nier que cette hypothèse est valable pour Venise. Puis le nom de lazaret était déjà employé depuis des siècles pour désigner les hospices de lépreux. Et c'est comme ça que Saint-Vincent de Paul a fondé les lazaristes pour s'occuper des malades, des pauvres, des abandonnés. On sait très peu de choses sur la personne de Lazare, sur ce qui lui vaut d'être protecteur contre la lèpre. C'est sans doute à cause de la parabole de Jésus. Selon une version, il aurait été évêque de Chypre, comme je vous ai dit, il aurait subi le martyre. D'autres disent qu'il était évêque de Marseille, hein, à l'époque de Néron. Puis le fameux Lazare de Béthanie, dont c'est la fête aujourd'hui, frère de Marthe et de Marie, est présenté comme l'ami de Jésus. Il aurait été confondu avec le Lazare, le pauvre, peut-être le lépreux, dont parle Jésus justement dans la parabole. On en a fait souvent une... On les a mélangés beaucoup, beaucoup. Jésus dit que dans l'Évangile, hein, même les chiens venaient lécher les ulcères de son Lazare imaginaire, tellement il était pauvre. La même image est reprise par Saint Cyrille quand il écrit « L'unique soin, et pour ainsi dire le traitement médical que ses plaies recevaient, était celui donné par les chiens qui les léchaient. » Et la raison pour laquelle on invoque Saint Lazare contre la lèpre est tout à fait évidente, hein. Alors invoquons aujourd'hui donc Saint Lazare, non seulement pour la guérison de tous ceux qui souffrent dans leur corps, mais aussi ceux qui souffrent dans leur mort. Et dans cette deuxième demi-heure, je vais vous raconter le récit de quelqu'un qui a justement été guéri, ressuscité par Jésus, et qui raconte son récit il y a quelques mois. Il nous a raconté ça au mois de mai dernier. Et c'est paru dans un beau livre, Célibataire pour Dieu. Ce sont des témoignages ramassés par Alain Duprat, et c'est publié chez Nouvelle Cité. Écoutons maintenant les moines de Solesmes chanter In Paradisum. C'est le temps de méditer, pour ceux qui vont m'écouter ce soir, sur cette conversion étonnante d'un jeune homme d'aujourd'hui qui avait sa batterie, ses drums, comme on dit, du hache, une conjointe, on dit plus une maîtresse, je sais plus quoi, mais une blonde, on sait plus quel mot il faut utiliser. Je suis trop vieux pour connaître le vocabulaire exact. Il raconte que depuis des années, les années 80, dans les bars de Rennes, en Bretagne, il y avait une bande de jeunes. Bande de jeunes qui fait la fête. Après le concert, ils passent d'un bar à l'autre. Les gars ont chacun une fille sur le bras. Puis un joint de hache à la main. On s'éclate, on mord à belles dents au plaisir de la vie, hein, sans restriction. Il n'y a plus de restriction, c'est fini, bah. C'est un monde qui a rejeté les interdits quinzaine d'années plus tôt. Puis de cette utopie de liberté, on a retenu que, finalement, la destruction des valeurs morales, faut tout détruire, ça. Faut rebâtir dans la liberté, dans l'anarchie, finalement. À Rennes, la génération qui a succédé à celle des révolutionnaires de mai 1968 s'amuse. Parmi elles, il y a Antoine. Antoine. C'est un beau gars. Il est mince, athlétique, visage fin, les cheveux châtains roux, puis il fait de l'effet sur les filles, puis il le sait. Son caractère entier le pousse à mille bêtises, comme seule la jeunesse sait le faire, et officiellement, il étudie la semaine à l'Institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire, au sud de Rennes, Saint-Nazaire. En réalité, il s'éclate nuit et jour sur la plage. Puis avec trois copains étudiants, il a réussi un coup de maître. Il a loué une villa au bord de la mer. Waouh! À faire crever de jalousie les paumés qui vivent en chambre eux autres. Puis ça fait rêver les filles qui viennent évidemment partager son lit, puis le lit des quatre voyous. Oui, des voyous. Bon, des voyous de qualité, mais des voyous quand même. Hein. L'une d'elles, ses filles, Fabienne, tombe sous le regard un petit peu langoureux là, d'Antoine. Il s'installe pour un concubinage durable. Une sorte de nouveau mariage, quoi. Puis enfin, ça dure quelque temps. Antoine est suffisamment accroché pour y croire un peu, avec l'illusion de vivre heureux. Il est jeune. Hein? Le week-end, il file à Rennes en auto, évidemment, retrouver les copains de là-bas. Il est très rock, Antoine. Dans le look, d'abord, bien sûr, il est vêtu de noir, blouson de cuir, chaussures pointues. Il se donne un petit air maussade, ça fait bien, avec un mélange ambigu de gravité puis de légèreté dans le regard. Mais surtout dans l'action, et son truc, c'est les percussions. Sa première batterie, se l'est payée à 14 ans, en travaillant quelques mois comme garçon de café. Et bientôt, il rejoint un groupe, puis passe à un autre. Le groupe Nada. Vous savez ce que ça veut dire en espagnol, hein? Rien. C'est un mot qu'on retrouve dans la haute spiritualité de Saint Jean de la Croix. Puis, c'est un groupe qui prend un peu de la bouteille à un moment donné. Bon, les ados, c'est des adolescents, ils grandissent, les ados grandissent. Oui, ils jouent le week-end dans leur cave. Et ils se prennent de plus en plus pour de vrais musiciens, avec cet attribut quasiment indispensable de l'artiste rock, là, de Rennes comme d'ailleurs, le hashish. Ça prend du hashish. Hein? La Marie. Les relations d'Antoine se multiplient. Il côtoie d'autres musiciens, dont des musiciens assez réputés dans la région. Avec ses copains de Nada, il sort beaucoup avec les membres d'un autre groupe, Words of Goethe, les paroles de Goethe, le philosophe, imaginez comme nom de groupe. C'est là qu'il y a Pascal Obispo, qui va percer bientôt comme chanteur, qui tient la guitare. Deux buts dans la vie d'Antoine, qui va sur ses 18 ans. Il va avoir 18 ans, il y a 17 ans, là. C'est l'esthétique musicale, mais pas suffisamment sérieuse pour aller vraiment très loin dans cette voie, puis beaucoup les plaisirs de la vie. Et là, Antoine ne se prive pas, hein. Mais jusqu'où va-t-il aller? Il passe ses nuits dans les boîtes, il fume, il drague. Et parce qu'il est jeune, il est beau, il est joyeux, mais déjà, il est fatigué, il est un peu tanné par les expériences désordonnées. Il dégoûte la fleur. C'est sûr. Ça le touche, le dégoût. Quand on parle à ces jeunes, d'ailleurs, ils ont tous un peu de dégoût de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Ils le savent. Ils savent pas où aller, il y a personne pour les aider. Un jour, patatras, sa copine le plante pour un autre. Bon, l'orgueil en prend un sacré coup. Mais la brisure entr'ouvre les yeux et Antoine se découvre au fond d'un puits sombre et absurde, c'est là qu'il se trouve. Un puits sans ouverture, sans le plus petit filet de lumière pour donner un sens à cette obscurité épouvantable. Il déclare aujourd'hui, en 1997, « Le Seigneur m'attendait à ce virage. Les vraies questions m'assaillaient soudain. Quelle est la finalité des choses? Y a-t-il une vérité? Je pensais que je valais quelque chose et que ma vie désordonnée ne pouvait pas se poursuivre ainsi. Les personnes ne pouvaient apparemment m'aider. Les questions que je posais faisaient fuir les gens, les copains s'écartaient et m'évitaient. C'était le mur, quoi, et je cherchais désespérément quelqu'un avec qui parler. Je pense que ça n'aurait pas pu continuer longtemps ainsi. L'absence d'explication me menait droit au suicide. » Antoine s'adresse un jour à une de ses tantes qu'il voit heureuse. Elle lui partage sa propre expérience. Elle est intriguée, elle, par une handicapée dont la joie rayonne de son fauteuil roulant, un peu comme Annette Desautels dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Elle l'a questionnée, et cette handicapée lui a répondu qu'elle avait trouvé le Seigneur dans la prière. Dieu, oui Dieu. Et Antoine explique aujourd'hui, je crois que le petit enfant s'est alors réveillé en moi. Son enfance, il l'a vécu dans un lieu à faire rêver tous les enfants du monde. La maison familiale était posée au bord de la Vilaine, la Vilaine, une rivière assez importante en Bretagne, à 2 kilomètres au nord de Rennes. On prenait une barque pour aller au jardin sur une île. Son père est minotier, il avait repris l'entreprise du grand-père, venu autrefois d'Alsace, acheter un moulin au bord de la rivière, et Antoine est le dernier des 5 enfants. Sa famille est catholique pratiquante, mais sans grande manifestation religieuse. Le petit dernier a l'esprit vif. À 7 ans, il fait preuve d'une rare lucidité. Il dit « J'ai été profondément marqué par ma première communion. Je voyais tous mes copains qui faisaient les idiots. Ils passaient complètement à côté de l'événement. Et moi, je me disais « Je sais ce que je fais. » Ça me faisait mal de voir ces gosses recevoir le corps du Christ n'importe comment. Et j'ai prié. J'ai dit au Seigneur quelque chose comme, « Je ne suis pas meilleur ni plus intelligent que les autres, mais au moins aujourd'hui, je sais que c'est toi que je vais recevoir. Je ne sais pas ce que je deviendrai dans les années à venir, mais je sens que j'aurai des problèmes, que les difficultés ne manqueront pas. Mais toi, Jésus, récupère-moi au bon moment. Hein? » J'ai des photos de la première communion de mon petit-fils Pascal, c'est un peu comme ça, il est le seul à recevoir ça sérieusement, on dirait. Grande grâce, c'est une très grande grâce. Et à l'époque, les choses vont mal à l'école pour Antoine. J'étais un gros rigoleur, le dernier de la classe, je crois que j'étais déjà animé par un sens profond de la finalité des choses. Mais je ne comprenais pas l'école parce que personne ne m'en avait expliqué le but. Et ses parents l'envoient en pension, puis à 8 ans, la rupture est brutale. Le garçon rentre chaque quinzaine, mais il vit désormais l'essentiel de sa vie loin des siens. Il dit « C'était dur, mais cela a eu le mérite de développer en moi une grande autonomie, ainsi que le sens de la vie communautaire. » Puis à 15 ans, donc, après 7 années d'internat, il retrouve la vie familiale régulière, il suit le lycée, il y a le lycée ensuite, là, en vue d'un baccalauréat commercial, puis il fait du sport, il dit « j'aimais la gymnastique, c'est une discipline individuelle, mais aussi... avec un esprit de groupe. Hein. J'ai fait de la compétition. Il dit, j'étais 20e au championnat de France. Je me donnais à fond à la gym. C'est un trait de mon caractère. Quand j'atteins mes limites, je vais voir encore un peu plus loin. Ça, c'est la marque d'une sainteté possible. Hein. Et plus tard, je me suis passionné pour la moto. Là aussi, j'étais toujours un peu limite, un peu extrême. Hein. Côté religion, Antoine pratique encore, mais abandonne complètement en partant de Seine à Saint-Nazaire. Et la suite, bien, on la connaît. Hein. Dieu, lorsque sa tante lui dit qu'elle retourne parfois à l'endroit où elle a trouvé la foi, Antoine lui dit, « Ben, la prochaine fois, ma tante, je t'accompagne. » Je n'avais pas tellement d'a priori, explique l'ex-rocker de Rennes. Je me disais que si ma tante avait retrouvé la foi là-bas et que si vraiment Dieu existe, je serais bien le dernier des cons à passer à côté. Je voulais vérifier. Et là-bas, c'est un lieu de pèlerinage pas vraiment bien coté. C'est San Damiano en Italie, que l'Église catholique n'a pas reconnu. Avec, si je me souviens bien, Mama Rosa. J'y suis jamais allé. Cela n'empêche pas une foule de gens de venir s'agenouiller là. Et Antoine part donc avec sa tante en pèlerinage en Italie. Il est habillé comme un rocker, dit-il, j'ai débarqué à San Damiano qui était rempli de mamies. De mamies, de bonnes femmes, quoi. Une autre planète, dit-il. Mais il y avait des jeunes aussi éparpillés dans la foule, et même des gratuits de guitare. Seconde épreuve, les prières étaient toutes en latin, je n'y comprenais rien, mais je me suis dit, s'il y a une vérité dans le monde, tu peux bien encaisser ces choses. Patience, on verra plus tard. Alors, quelle que soit la réalité naturelle ou surnaturelle de l'endroit, l'attitude de cet Antoine, par rapport à Dieu, lui fait prendre conscience de ce qu'il est. Il dit « J'ai ouvert les yeux sur mon péché. » Et dans cette lucidité, je suis allé me confesser. C'était le second jour, j'ai vidé mon sac. Antoine éclate d'un rire qui secoue sa soutane grise aujourd'hui. Il porte une soutane grise, imaginez. Il est frère de Saint-Jean, la communauté Saint-Jean, fondée en 75. Il dit « Un sérieux récurage de gamelle que j'ai fait. Il y avait si longtemps que je m'étais confessé. Et là, paf, j'ai retrouvé l'espérance. Je pouvais vivre à nouveau, respirer sereinement, malgré le bourbier dans lequel j'étais. C'était l'espérance de pouvoir communier à l'amour, à la vérité. Depuis, je n'ai plus lâché le chapelet. Mais les combats continuent. Antoine ne cesse pas, du jour au lendemain, de fumer du haschich. » Mais s'il retourne dans les bars, c'est aussi pour y porter la contradiction. Il repêche ainsi l'un de ses cousins qui s'en va à la dérive. Et avec lui, donc, il va rechercher Fabienne, son ancienne amie. Et puis, l'année suivante, Antoine retourne à San Damiano, en Italie, avec une autre question. Que faire de ma vie? Que faire de ma vie? Il travaille 2 mois à l'accueil des pèlerins pour préparer à manger. Il se donne généreusement, tout en guettant la réponse de Dieu. Et différents signes me parlaient du sacerdoce, dit-il. Un jour, c'est étrange, un jour que je répétais ma question au Seigneur, je relève la tête et je vois un prêtre devant moi. Je dis, ben non, pas ça, pas ça. Je tourne la tête. Et j'en trouve un autre derrière moi. Mais ça ne prouvait rien. J'avais besoin d'être convaincu. Alors j'ai dit au Seigneur, dis-moi clairement ce que tu veux de moi. Donne-moi un signe évident. Mais quand même pas trop, là. Que je puisse répondre en pleine liberté quand même. Le Seigneur est parfait pour ce genre de truc. Après quoi, je vais à la messe, dit-il. et quand je reçois l'Eucharistie, je sens un fort parfum comme de rose dans ma bouche. Vous ne le croirez pas, plusieurs d'entre vous. Bien moi, ça m'est déjà arrivé, pas en communion, j'ai déjà senti des parfums de rose comme ça. Et je vous assure que c'est vrai. Je n'étais pas sous ou fou ou quoi que ce soit. Ça existe. Antoine continue, je me souviens très bien, j'étais revenu à ma place, à côté d'un Christ gisant. Je ressentais intensément la présence du Christ dans l'Eucharistie que je venais de recevoir. Les pieds du gisant étaient transpercés, je les avais sous les yeux. J'avais une conscience aiguë de ma faiblesse, j'ai éclaté en sanglots. Je me sentais tellement pécheur. Et je disais au Christ, « Mais c'est à cause de moi que tu as les pieds troués. » Et lui me répondait avec une grande douceur, « Ne t'inquiète pas. Tout ça, ce n'est qu'une goutte dans l'océan de ma miséricorde. Et je t'appelle à être prêtre. » Le signe était sensible, mais tout était intérieur, au fond de mon cœur. La voix du Christ était très douce, elle respectait complètement ma liberté, alors j'ai dit, « Ok, prêtre. » J'avais trouvé ma vocation. Je serai prêtre de la miséricorde divine. Et là-dessus, Antoine part au service militaire. Son cousin, qui pense à la vie religieuse, a connu les frères de Saint-Jean. Il s'agit d'une congrégation fondée en 75 par un dominicain, le père Marie-Dominique Philippe, professeur de philosophie à l'université de Fribourg en Suisse, sur l'appel de quelques-uns de ses étudiants. Et tout en restant dominicain, le père Philippe, qui ne voulait rien fonder du tout, s'est retrouvé malgré lui à la tête d'un mouvement naissant qui s'enracine tout de suite dans la tradition de l'Église, et les frères de Saint-Jean, dont la majorité sont prêtres, s'inscrivent à contre-courant d'une tendance largement répandue dans l'Église, écoutez bien, à l'heure où nombre de religieux troquent leurs vêtements traditionnels contre d'autres sans signe distinctif, avec des pantalons à carreaux puis des chemises n'importe comment, mais eux portent ostensiblement leur costume, ils sont revêtus d'une longue tunique grise comme des moines, avec un scapulaire puis un capuchon, puis ils s'activent un peu partout, par petites communautés de 5 à 7 membres, et on les voit un peu partout en France. Paraît-il qu'ils viennent d'arriver à Montréal. Nous pouvons maintenant écouter quelques mesures, une minute disons, du Credo Quod Redemptor chanté par les moines de Solem. Alors, on continue le récit de la conversion, de la résurrection d'Antoine, comme celle de Lazare tout à l'heure, n'est-ce pas? 20 ans après la fondation des Frères de Saint-Jean, en 95, même aujourd'hui, ils sont aujourd'hui 500. Oui, 500! À faire couler avec dynamisme un sang nouveau dans les artères vénérables de notre pauvre et vieille, merveilleuse Église catholique. Bien qu'ils soient très actifs, les frères de Saint-Jean sont avant tout des contemplatifs, et dans leur logement, il y a une pièce aménagée en chapelle. Elle est réservée à l'Eucharistie qu'ils adorent tous les jours. Ils s'y retrouvent plusieurs fois, d'ailleurs, par jour, pour les offices traditionnels, les laudes, les vêpres, etc. Militaire, Antoine profite d'un congé pour aller voir son cousin récemment entré à Saint-Jean, et c'est le coup de foudre. Il dit, dès le premier soir, j'ai compris que je vivrais ma vie. Pourquoi? Il y avait là un immense amour de la vérité, une soif incroyable de lumière que le père Philippe donnait. J'ai pu l'entendre. Antoine s'enflamme. C'était extraordinairement lumineux. Je me sentais nourri, comblé par un maître spirituel, quelqu'un qui a cheminé. qui ne s'est pas contenté de transmettre des connaissances, mais qui est allé au fond des choses. Il a étudié Platon et Aristote dans le texte pour vérifier et développer la philosophie de saint Thomas. Ébloui par une lumière intellectuelle, Antoine? Pas seulement. Il dit, ce soir-là, j'ai aussi vu la charité fraternelle. Les frères qui étaient là, souvent jeunes comme moi, n'hésitaient pas à s'éclater. Ce n'étaient pas des intellos rabougris. Ils savaient jouer, rire, plaisanter. Il y avait là d'anciens motards, des karatékas. Et pour Antoine, inutile d'attendre. Il va voir le supérieur de la jeune congrégation. Il exprime son désir de devenir lui aussi frère de Saint-Jean. Je lui ai remis mon appel au sacerdoce. Car je comprenais qu'avant d'être prêtre, je dois vivre mon baptême. Avant de vouloir convertir les autres, je dois me convertir moi-même. Et la communauté fraternelle de Saint-Jean m'en offrait la possibilité. Alors, désormais, la voie est tracée. Antoine termine son service militaire, entre au noviciat, prononce ses premiers vœux, il étudie. En 1992, il s'engage définitivement au sein des frères de Saint-Jean, et 2 ans plus tard, en 1994, il est ordonné prêtre. Et aujourd'hui, frère Antoine fait quoi? Il accueille les pèlerins d'un lieu retiré des Hautes-Alpes, Notre-Dame-du-Los. C'est une basilique posée en pleine nature à 20 kilomètres de Gap. Antoine y prêche l'Évangile. Il anime des retraites à la lumière de la vie d'une paysanne méconnue, Benoîte Récurel, qui, il y a 3 siècles, aurait bénéficié ici de dons surnaturels, hein, en 1664. Et durant une 50aine d'années par la suite, elle a eu des apparitions de la Vierge, dit-on. Benoîte Récurel. Alors, il se contente pas de jouer les bons prêcheurs. Son prieur l'a autorisé à quoi? À reprendre sa batterie, ses drums, comme on dit. Quelques jours par mois, il descend à Lyon. Dans la belle ville de Lyon, là, il retrouve des amis artistes. Toujours avec son costume, là. Il y a quelques années, Totus Tuus lui a demandé s'il pouvait se joindre à eux. C'est un groupe, ça, qui s'appelle Totus Tuus. C'est le logo, si on peut dire, du pape, hein. Ce groupe musical fait de l'évangélisation, se produit dans des prisons, des lycées, sur les parvis des églises. Il dit, à la fin du spectacle, on invite le public dans l'église, puis les gens entrent, et c'est moi qui vais les écouter au confessionnal. C'est incroyable, hein? Alors, avec leur habit, les frères de Saint-Jean ont un indéniable côté rétro, c'est sûr, mais cela ne gêne nullement Antoine, qui répond volontiers aux attaques. Il dit, c'est vrai, nous sommes très critiqués, peut-être parce qu'il y a beaucoup de jeunes chez nous. Près d'une 100aine aux noviciats en ce moment, 100 novices. Hein. En réalité, nous dépassons les clivages traditionnels de gauche et de droite. Traditionnaliste? Mais qu'est-ce que la tradition? Une richesse de l'Église que je veux vivre, dit Antoine. C'est pour ça que je vis le Concile qui en fait partie. Notre habit, ben, c'est un signe d'espérance pour les gens. Écoutez bien, des signes d'espérance pour les gens qui ont besoin de signes distinctifs. Si nos franciscains se promenaient avec un costume agréable comme ça, ça changerait la ville, mon Dieu, et les autres communautés. Celui qui porte l'habit religieux, dit-il, est porteur d'une identité dont il n'a pas peur et dont il est fier. Beaucoup de jeunes désespèrent justement, écoutez bien ça, beaucoup de jeunes désespèrent justement parce qu'ils ne voient plus aucun signe qui marque l'identité. C'est un peu le résultat de mai 68 qui a tué le père. La ruse est démoniaque, car si je tue le père, qui est le référent de tous, toute la famille perd son identité. Et ce qui est psychologiquement vrai au niveau humain, l'est d'autant plus au niveau divin, dit-il. Le religieux doit donc montrer son identité, sa donation totale à Dieu, qui est source d'espérance. Elle montre que l'absolu de l'amour est encore possible. Et il conclut, « Je le dis fortement, écoutez bien là, je le dis fortement parce que j'ai failli en crever, moi, de cette absence de signes. Je croyais que ce n'était plus possible, l'amour. » À 33 ans, 12 années après les découvertes fondamentales qui ont orienté sa vie, mais cet ex-rocker de Rennes ne doute jamais du chemin pris. Il dit « La vie religieuse est une aventure. La certitude n'est jamais première. C'est l'un des problèmes des Français. Tant qu'on n'est pas sûr, on ne fait rien. Et on n'avance jamais. En réalité, la certitude est un fruit. Oui, c'est un fruit, la certitude. Ça va grandissant, hein, ça mûrit. Si je suis sûr d'une chose, dit-il, c'est parce qu'il y a autre chose avant. Quand j'ai découvert les frères de Saint-Jean, c'était nouveau. Comment pouvais-je en être sûr? J'ai choisi d'abord. J'ai choisi parce que ça me plaisait. La certitude est venue ensuite, car elle s'est construite peu à peu. Et lorsqu'un jeune se pose la question de la vocation, il ne faut pas la tromper. Ce n'est pas quand il sera sûr qu'il pourra se lancer. Il faut au contraire lui dire, et je vous le dis aux jeunes, « Vas-y, mon pote, on ne peut pas y aller à ta place, c'est à toi d'avancer. C'est vraiment une aventure, la vie religieuse. » Et Antoine conclut en disant, « Schwarzenegger à côté, c'est du pipi de chat. » Il ajoute, « Moi, en tout cas, je le vis comme ça. La vie religieuse est héroïque. Les religieux sont des héros de la foi. Je ne dis pas que j'en suis un. Tout peut arriver. Je ne suis qu'un pauvre type conscient de sa fragilité. Mais en tout cas, j'y suis appelé. Et j'en ai soif. C'est vers ça que je tends. Sinon, je ne suis pas à ma place. » Ça, c'était Antoine, frère de Saint-Jean, qui a été rencontré par l'auteur de ce livre que j'ai en main à Notre-Dame-du-Los, dans les Hautes-Alpes, en mai 1997. Le livre vient tout juste de paraître, « Célibataire, au pluriel, célibataire pour Dieu ». Ce sont des témoignages récoltés par Alain Duprat, D-U-P-R-A-Z. La maison d'édition Nouvelle Cité. De grâce, offrez ça en cadeau de Noël. Vous avez, je ne sais combien de récits, il y a 15 récits magnifiques de moniales cisterciennes, d'ermites, de focolarines, de petites sœurs de Jésus, dominicains, Xavier, comme je vous en ai parlé l'autre jour, les Xavier, des focolaris. C'est eux qui publient Nouvelle Cité. Une diaconesse réformée, protestante, donc un frère du Saint-Sacrement, tiens, une consacrée du Verbe de vie, un frère Marie, tiens, comme le frère Marcel qui vous parle le soir, un ermite en ville, un bénédictin, une carmélite. Ah, un beau livre, « Célibataire pour Dieu » chez Nouvelle Cité.